Bonjour Sonra. Peut-être que ce bâtiment vous dit quelque chose. Il se trouve que le 21 février 2024, Misak et Méliné Manoukian sont entrés au Panthéon. Ce sont les derniers à être entrés au Panthéon, qui est ce monument qui se trouve à Paris et dans lequel sont enterrés ou sont célébrés des personnes qui ont joué un rôle particulier dans ce pays. Alors sur l'image que vous avez là, ce n'est pas, le couple Manoukian, mais c'est le couple Veil. Vous reconnaissez notamment Simone Veil avec son mari André. Et j'ai fait ce travail avec mes élèves au lycée, de leur demander de défendre des personnes qu'ils souhaiteraient voir entrer au Panthéon. Et je leur ai donné trois critères, qui sont à peu près les critères officiels. Alors pour entrer au Panthéon, il faut avoir une vie engagée pour défendre les valeurs de la République, c'est normal. Il faut éviter d'avoir des casseroles. C'est pour ça que, par exemple, l'abbé Pierre a été écarté des personnes étant passibles d'entrer au Panthéon. Et puis le troisième critère, désolé Guy, mais il faut être mort. Donc on ne peut pas entrer au Panthéon de son vivant, on est bien d'accord. Alors, il se trouve que dans l'épître aux Hébreux que l'on parcourt depuis quelque temps, eh bien, l'auteur n'a de cesse de remettre en question les critères que les Hébreux semblaient avoir compris pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, pour pouvoir être réconcilié avec Dieu, pour pouvoir vivre une vie qui plaise à Dieu. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, hein, de quelle manière ces critères sont, encore une fois, remis à plat par l'auteur des Hébreux. J'aimerais donc vous proposer de poursuivre notre parcours dans Hébreux, et on va lire ce matin les chapitre 5, versets 1 à 10. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre, il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek ». Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Alors, rapidement, je vous rappelle le contexte de cet épître aux Hébreux. Il se trouve que les Hébreux sont des chrétiens, on ne sait pas trop d'où, dans l'Empire romain, qui ont un arrière-plan culturel juif et qui sont sous la pression de la persécution, sous la pression des difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie, sont tentés de revenir au judaïsme. Et l'auteur du livre aux Hébreux n'a de cesse de leur dire « Voilà ce qu'est le judaïsme, mais voilà ce qu'est Jésus. » Et si on pouvait résumer par un titre général l'épître aux Hébreux, ce serait « Jésus est supérieur ». Jésus est supérieur, chapitre 1 et 2, aux anges. On a vu au chapitre 3 qu'il est supérieur à Moïse. Au chapitre 4, qu'il offre un repos supérieur à celui que proposait Josué, à savoir la possession du pays promis. Et puis, dans les chapitres 5 à 7, nous entrons dans une nouvelle étape de ce livre, puisque le point capital, c'est d'insister sur le fait que Jésus propose un sacerdoce supérieur à celui des Lévites. Alors, sacerdoce, c'est en lien avec la prêtrise, la manière dont la religion juive était organisée, et les Lévites, c'était ceux qui étaient les prêtres qui étaient en charge de cette religion. Jésus est donc supérieur à ces lévites, supérieur à la manière dont cette religion était organisée. Et au chapitre 8 va être annoncé le démarrage d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle manière de fonctionner dans la relation entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Ce rappel, pour vous amener sur un contexte un peu plus précis, vous avez remarqué que le verset 1 du chapitre 5 commence par « en effet ». Et dans le verset précédent, au chapitre 14, chapitre 4, verset 14, nous lisons « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, approchons-nous de lui avec assurance, etc. » Je vous renvoie à l'intervention de Philippe qui a parlé là-dessus fin avril. Il se trouve que, et David aussi qui a parlé sur ce passage précisément le 4 mai. Il se trouve que, pour introduire notre passage, Jésus est donc bien considéré comme le souverain grand prêtre. Donc c'est celui qui est à la tête de ces prêtres qui gèrent cette religion juive. Et grâce à lui, on peut s'approcher de Dieu. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que le premier de ces grands prêtres dans l'histoire du peuple juif, eh bien c'est Aaron. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir tout spécifiquement aujourd'hui à cette figure d'Aaron et à comprendre pourquoi Jésus est plus qualifié qu'Aaron pour être le grand prêtre du peuple de Dieu. Pourquoi Jésus a des qualifications supérieures à celles d'Aaron ? Et pour cela, je vais vous proposer de répondre à quatre questions. La première, c'est « Qui est Aaron ?» Deuxième question, « Pourquoi remplacer Aaron ?» Par qui le remplacer, mais aussi comment le remplacer. Tout d'abord, qui est Aaron? Pour être très clair, Aaron, à la fois, on peut le définir par sa famille, puisque Aaron est tout simplement le frère aîné de Moïse, celui qui a conduit le peuple hébreu hors d'Égypte et qui les a libérés de l'esclavage. Aaron, c'est le frère de Moïse, il fait comme Moïse partie de la tribu de Lévi, et c'est le premier grand prêtre de l'histoire d'Israël. Et tous les grands prêtres suivants sont des descendants d'Aaron. Mais Aaron, on peut aussi le définir, pas seulement par sa famille, mais aussi par son rôle spirituel. Pourquoi est-il devenu grand prêtre? Parce que dans cette période de fuite du pays d'Égypte, eh bien, Dieu encourage Moïse à mettre en place un lieu de rencontre entre lui-même et le peuple de Dieu. Et pour que cette rencontre puisse se faire, Dieu propose un médiateur. Et ce médiateur, c'est le grand prêtre, c'est Aaron, qui a le rôle d'être responsable du tabernacle, de ce qui va devenir ensuite le temple, qui est responsable de ce lieu précis, physique, où les Hébreux viennent adorer leur Dieu, mais viennent aussi offrir des sacrifices pour obtenir le pardon de leurs péchés. Alors, il se trouve qu'une fois par an, le grand prêtre, revêtu d'une tunique sacrée, avec toute une symbolique dessus qui est extrêmement intéressante parce qu'elle nous plonge dans la question de la sainteté de Dieu. Par exemple, il y avait des petites clochettes en bas de sa tunique qui, donc chaque fois qu'il se déplaçait, on entendait gling, 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 gling. Et pour la raison très simple que, une fois par an, il était le seul et unique prêtre à avoir le droit de rentrer dans la partie à gauche qu'on appelle le lieu très saint, qui était un lieu où se trouvait l'Arche de l'Alliance, qui était le lieu aussi où Dieu manifestait sa présence par des fumigènes, de la fumée. Et pourquoi il avait des clochettes, ce grand prêtre? Parce que de l'extérieur, les autres prêtres écoutaient si les clochettes continuaient à bouger. Tant que ça bougeait, c'était bon signe, il y avait des chances qu'ils ressortent. Si ça bougeait plus, c'est que il avait été frappé par la sainteté et la perfection de Dieu et qu'il y avait un problème. Et dans ce cas-là, c'était compliqué. L'idée est que Aaron joue ce rôle donc, de médiateur. C'est lui qui vient offrir un sacrifice et qui rentre dans ce lieu très saint avec du sang pour signifier devant Dieu que nul n'est digne de recevoir l'attention que Dieu lui accorde, que nul dans le peuple n'est suffisamment parfait pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu et que seul le sacrifice d'un animal et le sang qui est versé peut apaiser la colère de Dieu et peut donner la possibilité d'obtenir la miséricorde de la part de Dieu. Aaron, il a eu de nombreux successeurs, et d'ailleurs on connaît le nom du plus célèbre d'entre eux, qui est celui qui a mené le procès de Jésus, qui s'appelle Caïphe, qui était justement un grand prêtre. Et il faut des qualifications particulières pour devenir grand prêtre, ça ne se fait pas comme cela. Et le passage que nous avons ici nous montre trois qualifications. Verset 1, il faut être au service du peuple. C'est vraiment l'idée clé de ce travail. Ce n'est pas un travail de direction, c'est un travail de service en faveur des hommes. Verset 2, il faut être compréhensif pour les personnes ignorantes et égarées. C'est-à-dire avoir une certaine humilité sur sa propre humanité et les propres limites de sa personnalité et de son caractère. Et verset 4, il faut être désigné par Dieu, puisque personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Ce qui nous mène à la deuxième question, pourquoi remplacer Aaron ? Pourquoi remplacer le grand prêtre tel qu'il existait dans la tradition et dans la religion juive ? En réfléchissant à ça, l'auteur ici va quand même sur un terrain qui est assez courageux, puisqu'il explique à ces Hébreux qui sont des chrétiens qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et qui ont envie de revenir à la religion juive, pourquoi le chef de cette religion juive, la personne la plus importante dans cette religion juive, celui qui est le médiateur avec Dieu, pourquoi est-ce qu'il faut le remplacer ? Et qu'en fait, c'est pas la personne qu'il fallait. Alors, il se trouve que la raison principale qui est donnée ici, c'est que ce prêtre était un homme parmi les hommes, sujet à la faiblesse, qui lui-même commettait des péchés, et donc avant même de rentrer dans le lieu très saint pour apporter un sacrifice général pour obtenir la miséricorde de Dieu pour le peuple, il devait lui-même apporter un sacrifice pour ses propres péchés, pour se purifier. Et il y a une description de tout le processus lorsqu'il mettait cette tunique spéciale de purification qui le rendait apte à pouvoir entrer dans ce lieu très saint. Autrement dit, c'était un processus compliqué, et puis c'était un processus qui était en fait annonciateur d'un meilleur et d'une meilleure façon de s'approcher de Dieu. J'ai eu l'occasion hier d'aller au musée de Confluence voir une exposition extraordinaire qui s'appelle donc le Mystère des Anneaux et qui est assez passionnante puisque ça se passe au large de la Corse, on est au nord de la Corse, et ça raconte l'histoire de 3 ans et demi de recherche menée par une équipe de scientifiques qui sont allés plonger à plus de 120 mètres au fond de la mer pour étudier un phénomène qui était jusqu'alors inconnu, de cercles complètement, parfaitement géométriques qui se trouvent au fond de la mer. Et dans cette émission, ce qui est intéressant, c'est que dans cette exposition, on voit différentes hypothèses qui sont avancées par les scientifiques. Il y a une hypothèse 1, il y a une hypothèse 2, il y a une hypothèse 3, et puis petit à petit, chaque hypothèse est démontée et remplacée par une meilleure hypothèse. Et puis aujourd'hui, ils ont une hypothèse 4 qui leur semble plausible. Mais la fin de la recherche se termine avec un spécialiste qui dit « Mais en réalité, on a encore beaucoup d'autres questions auxquelles on doit répondre. » Et peut-être qu'il y aura une hypothèse 5 qui remplacera l'hypothèse 4 bientôt. En fait, ce que nous apprend l'Ancien Testament sur la manière dont nous pouvons avoir une relation avec Dieu Et comme une sorte de, d'hypothèse 4, qui est intéressante, qui est bonne, qui nous montre la manière dont Dieu veut être en contact avec nous, mais qui a besoin d'être définitivement amélioré, perfectionné, d'une solution qui réponde à toutes les questions que l'on peut se poser encore sur la rugosité de cette manière dont on peut relationner avec Dieu dans l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que le remplacement d'Aaron s'avère nécessaire. Mais la question qui se pose, c'est bien sûr, par qui le remplacer ? Par qui remplacer ce prêtre qui a été lui-même choisi par Dieu ? Eh bien, dès le chapitre 2, l'auteur des Hébreux nous explique très clairement que Jésus est ce remplaçant. Verset 17 du chapitre 2, on peut lire « Par conséquent, Jésus devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Ici, il dit très clairement, Jésus devait devenir un grand prêtre, rempli de compassion. Et ça va être ensuite un fil rouge des chapitres suivants, à savoir la position et la qualification de Jésus comme grand prêtre. Pourquoi est-ce que Jésus est qualifié comme grand prêtre ? Eh bien, c'est ce qu'il nous dit ici, dans les versets 5 à 9. Vous vous souvenez ce que j'ai dit sur Aaron ? Une des qualifications nécessaires, c'est d'être désigné par Dieu. Qu'est-ce qu'on lit ici au verset 5 ? Christ, non plus, ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Jésus, comme le grand prêtre, doit être aussi un homme. Verset 7, il est question de sa vie terrestre. Jésus a été pleinement homme et cela le qualifie pour être le grand prêtre qui nous met en contact avec Dieu. À tel point qu'il peut être compréhensif envers nous puisqu'il a connu cette condition humaine. Il a été confronté à la souffrance physique, psychologique, que ce soit la fatigue, le découragement, la trahison, l'opposition. Il a connu tout cela. Mais aussi la souffrance de résister à la tentation et la pression qu'il peut y avoir avec. Deuxièmement, Jésus est aussi au service de son peuple, puisqu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Verset 9. Alors, c'est extraordinaire, je trouve, de voir ces aspects-là qui qualifient Jésus comme grand prêtre, mais de aussi revenir sur la vie de Jésus lui-même telle qu'il l'a vécue, telle qu'on la découvre dans les évangiles. Parce qu'en réalité, on retrouve tous les éléments de la prêtrise de Jésus dans son ministère. Par exemple, à quel moment Jésus a été appelé par Dieu, de telle sorte que, c'était clair et net, c'est il est choisi par Dieu pour être le grand prêtre d'Israël. Au moment de son baptême, qu'est-ce qui se passe au moment du baptême de Jésus ? Il est avec Jean-Baptiste dans le Jourdain, et lorsqu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » C'est les mêmes mots qui sont là, et qui sont tirés du psaume 2. Le psaume 2, qui est un psaume messianique, qui annonce la venue du Messie et du Roi, qui vient sauver Israël, et qui est la confirmation claire et nette que Jésus est ce roi, est ce grand prêtre, est ce Messie qui est tant attendu. Et puis au cours de son ministère, on voit que Jésus se comporte avec humanité et avec compréhension pour les personnes ignorantes et égarées. Il accorde, comme un grand prêtre, le pardon des péchés. Il peut même déclarer pur des personnes impures, que seuls les prêtres avait la possibilité de faire. Donc la qualification de Jésus se revoit au cours de son ministère. Et ce qui nous mène à cette dernière question, et qui est la question fondamentale de ce texte, comment remplacer Aaron par Jésus ? Puisque ceci étant dit, on a compris que le grand prêtre, Aaron et ses successeurs étaient nécessaires dans leur rôle de médiateur avec Dieu, mais imparfait et pas totalement à la hauteur de ce qu'il fallait. Si Jésus est ce nouveau grand prêtre, comment remplacer Aaron par Jésus ? les Hébreux voulaient faire le contraire. Ils voulaient remplacer Jésus par Aaron en faisant marche arrière. Mais ici, l'auteur des Hébreux suggère aux Hébreux de dire « Non, stop, vous devez rester les deux pieds sur terre. C'est le contraire, c'est Jésus qui doit être votre grand prêtre. » Et ce qui est fou, c'est que les Hébreux savent et connaissent la confrontation qu'il y a lieu entre Jésus et le grand prêtre au moment de son arrestation. Vous vous souvenez, lorsque Jésus est arrêté, il est emmené devant le Sanhédrin, donc l'assemblée des chefs religieux juifs. Et là, le grand prêtre, Caïphe, demande à Jésus s'il est bien loin de l'Éternel, s'il est bien celui qui est choisi par l'Éternel, choisi par Dieu. Le grand prêtre, c'est dans Matthieu 26 qu'on peut lire cela, le grand prêtre prit la parole et dit à Jésus, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Je ne sais pas si vous réalisez la solennité de cette confrontation. Nous avons d'un côté Caïphe, qui est le grand prêtre du peuple juif, qui est la personne la plus importante de ce peuple juif, qui a le rôle d'être le médiateur avec Dieu. Et face à lui, il a Jésus qui lui dit qu'il est aussi un grand prêtre, puisqu'il dit qu'il est loin de l'Éternel, il est le Messie, il est celui que Dieu a choisi. Battle de grands prêtres. Confrontation de haut niveau, qui est digne d'un match de tennis du style final de Roland-Garros entre Alcaraz et Sinner, mais qui nous instruit sur la raison et sur la manière dont Jésus peut remplacer cet Aaron, peut remplacer ce Caïphe aux yeux des Hébreux. Parce que si de Aaron à Caïphe, leur rôle était d'enseigner le peuple en leur disant « Si vous voulez obtenir l'approbation de Dieu, vous devez respecter la loi, vous devez respecter des règles, vous devez offrir des sacrifices, vous devez offrir des sacrifices, vous devez offrir des sacrifices. » Leur rôle était de dire au peuple « Vous êtes coupable devant Dieu, vous ne méritez pas l'amour de Dieu. » Et le rôle de Aaron jusqu'à Caïphe, c'était de cultiver la culpabilité de ce peuple de Dieu. Et en même temps de leur dire, attention, si vous ne faites pas scrupuleusement ce que nous vous disons, si vous ne respectez pas scrupuleusement la loi, la porte est là-bas. Et vous serez exclus du peuple de Dieu. Et vous ne pourrez plus bénéficier des privilèges liés au fait de faire partie du peuple de Dieu. Vous serez d'ailleurs comme les Romains, les Grecs, qui, regardez comme ils se comportent et regardez comment ils sont complètement perdus dans leur religion avec tous leurs dieux qui sont devant eux. Et là, ce grand prêtre était chargé de cultiver l'orgueil de ce peuple juif, de leur dire, regardez, nous avons la vraie manière de nous approcher de Dieu et les autres là-bas, on ne leur parle même pas. Alors qu'est-ce que Jésus apporte de nouveau comme grand prêtre ? De plus ou de différent que cette culture de la culpabilité ou cette culture de l'orgueil en disant c'est nous qui avons la réponse. Eh bien, Jésus apporte trois nouveautés incroyables. La première, au verset 6, il dit aussi d'ailleurs, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Melchisédek, retenez juste que c'est un prêtre qui sort de nulle part et qui n'a rien à voir avec la tribu de Lévi. J'en parle pas plus parce que ce sera abordé plus tard dans le chapitre 7. Mais ce qui est essentiel de comprendre par rapport à notre passage ici, c'est que Jésus n'est pas lévite. Alors que c'était un des prérequis pour devenir grand prêtre. Jésus n'est pas lévite. Il n'est pas descendant d'Aaron. Et pourtant, c'était déjà annoncé au psaume 110 que ce roi, ce Messie, ne serait pas de la tribu de Lévi. Donc Jésus, la nouveauté qu'il apporte, c'est qu'en fait, il ne prétend pas être dans la continuité de ce que Aaron a fait et ce qui avait été établi avec Moïse et Aaron, mais il propose de commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle prêtrise. Deuxièmement, et là, c'est un verset qui pour moi est le verset central de ce passage, puisqu'au verset 7, je vais le relire avec vous, « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. » Est-ce que vous voyez le paradoxe de cette phrase ? Il a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé, mais Jésus est mort. Il n'a pas échappé à la mort. Il a été exaucé, oui, parce que Dieu l'a ressuscité, et donc ne l'a pas laissé dans cet état de mort. Mais la réalité extraordinaire, c'est que Jésus n'a pas échappé à la mort. Et donc, contrairement à Aaron, le sacrifice, c'est lui-même. Jésus est le sacrifice qui est mort pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Alors même qu'il demandait à Dieu de lui faire échapper à cette épreuve, il a obéi jusqu'au bout. Il est mort et il s'en est remis à Dieu dans l'espoir d'être ensuite ramené à la vie. Ce qui le qualifie, et c'est mon troisième point, c'est la troisième nouveauté qu'apporte Jésus, ce qui le qualifie pour être l'auteur d'un salut éternel, verset 9. Ça veut dire quoi, être l'auteur d'un salut éternel ? Ça veut dire que Jésus est un nouveau grand prêtre, qui n'est pas un grand prêtre parmi d'autres dans la descendance d'Aaron. Non, il est d'une autre famille, et en fait, il est un grand prêtre éternel, qui s'est sacrifié lui-même une seule fois, et une seule fois pour toujours. Il est ce grand prêtre qui est notre grand prêtre pour toujours et qui est là à chaque instant et pour toujours pour être l'intermédiaire entre Dieu et nous. Donc je répète ces trois nouveautés que Jésus apporte. Il n'est pas lévite. Il offre sa vie en sacrifice sans renoncer à cette souffrance, ce qui fait de lui l'auteur d'un salut éternel. Alors, lorsqu'on repense au Panthéon, je vous ai dit qu'il faut plusieurs critères pour pouvoir rentrer au Panthéon. Et d'ailleurs, ce sera intéressant si vous avez des noms en tête de personnes que vous voudriez suggérer pour rentrer au Panthéon après, vous me direz. Simplement, il faut qu'elles cochent ces trois critères, d'accord ? Être morte, avoir une vie engagée pour défendre les valeurs de la République, et puis pas de casserole. Alors bien sûr, on peut se poser la question de savoir si nous connaissons une personne qui serait digne d'entrer au Panthéon. Il se trouve que Jésus est mort, mais ça pas seulement, c'est plus que cela, il est ressuscité. Il a vécu une vie engagée pour défendre les valeurs du royaume. Et puis Jésus n'a aucune casserole parce qu'il est complètement parfait. Et cette analogie nous encourage à réaliser que, certes, c'est formidable d'avoir des grands hommes qui sont des modèles que l'on peut honorer dans notre pays. Mais plus que cela, en tant que chrétiens et en tant que peuple de Dieu, nous avons un modèle qui dépasse tous les autres et que nous sommes appelés à honorer. Et l'encouragement pour nous, c'est de dire, voilà, est-ce que nous cultivons cette personne de Jésus en cherchant à le connaître toujours mieux et en étant remplis du désir de l'honorer davantage ? Il y a une bataille dans notre cœur, en fait, non pas entre deux grands prêtres, mais entre trois grands prêtres. D'un côté, il y a un grand prêtre qui veut nous convaincre que nous n'en faisons jamais assez pour Dieu. Tes efforts ne sont pas suffisants et il nous écrase sous la culpabilité de devoir en faire toujours plus. Il y a un grand prêtre qui veut nous convaincre que notre vie est moralement correcte et que notre spiritualité est de bonne qualité. Et que cela explique pourquoi Dieu nous aime et que notre vie se passe plutôt pas mal. Ce grand prêtre est là pour caresser notre orgueil. Mais à côté de ces deux grands prêtres, qui soit veulent nous écraser par la culpabilité, soit nous caresser dans le sens du poil en nous enorgueillissant. Il y en a un autre, c'est celui qui veut nous convaincre que la réussite de notre vie ne repose pas sur ce que nous faisons, ou sur ce que nous accomplissons, ou sur ce que l'on dit de nous, notre réputation, ou bien la manière dont nous prenons soin des autres. Non, il est là pour nous convaincre que la réussite de notre vie repose sur ce que lui a fait, sur le fait qu'il a prié Dieu de l'éloigner de la croix, de l'épargner de cette épreuve, mais qu'il a été exaucé en allant à la croix et en mourant sur la croix pour être mieux ressuscité derrière et mieux glorifié. Et être pour, aujourd'hui pour nous ce grand prêtre qui se trouve à la droite de Dieu et qui est là pour intercéder pour nous. Christ est le grand prêtre et aussi le sacrifice dont nous avions besoin. Christ est le grand prêtre ultime et le sacrifice ultime dont nous avions besoin. Il est celui qui nous ouvre la voie vers Dieu et dont l'amour nous pousse à lui obéir. Ce qui renverse complètement le paradigme. J'obéis à Dieu non pas pour lui plaire, mais parce que Dieu me plaît tellement, alors je suis motivé à lui obéir. Et là, c'est un défi qui est extraordinaire. On verra la semaine prochaine la suite de ce chapitre 5 et puis le chapitre 6 avec Philippe qui nous parlera d'un encouragement à progresser.
Merci Colin, merci Seigneur aussi de la richesse des divers intervenants que nous avons dans notre communauté qui prennent du temps pour préparer ça. Je peux vous dire que ça, il faut s'en occuper. Merci Seigneur pour ce bon culte ce matin. Je regarde ma sœur Betty, est-ce que je peux te demander de terminer par la prière ce culte, s'il te plaît? Amen. Et si tu te poses des questions à l'issue de cette matinée, on est là pour répondre, sans problème. Il y a plein de personnes qui peuvent répondre. Soyez bénis, bonne semaine, bon dimanche. Hasta luego.